RCF.
Bonjour, fidèles auditeurs, auditrices de notre émission mensuelle « La vie militaire dans le Cher et le Berry » sous le patronage d'Agora Défense dans le cadre du Berry se raconte. Nous retrouvons aujourd'hui pour notre troisième volet sur l'histoire des services de santé de la Première Guerre mondiale, Annabelle Desilles. Bonjour madame.
Bonjour.
Bonjour Annabelle. Vous êtes professeure certifiée en sciences techniques médico-sociales au lycée Jacques Cœur de Bourges. Et nous allons aborder dans cette dernière émission l'arrivée des premiers blessés et le quotidien des services de santé de notre département pendant cette Première Guerre mondiale. Annabelle, quand arrivent les premiers blessés et où ?
Alors pour répondre à votre question, Je n'ai pas de date précise pour l'instant, puisque je n'ai pas dépouillé toutes les archives du Val-de-Grâce. Mais ils sont arrivés, je peux vous dire, à la gare de Bourges.
Oui.
C'était le passage obligé, puisque tous nos soldats nous sont arrivés par train sanitaire. Alors j'ai trouvé, pour le lycée Jacques Cœur, l'hôpital complémentaire 28, que le 29 août, à 6h du matin, 295 blessés sont arrivés. Et à 3h de l'après-midi, ils avaient été tous visités, pansés, couchés et nourris. Donc ils avaient été tous dispatchés dans l'hôpital et ils avaient pu être soignés.
D'accord.
Donc c'est énorme, 300 blessés d'un seul coup. Je ne suis même pas sûre qu'un hôpital comme Bourges pourrait le faire actuellement. N'importe quel hôpital pourrait le faire.
Est-ce que vous savez qui va les chercher à la gare ?
Alors, ce sont les infirmiers militaires de chaque hôpital qui vont les chercher à la gare.
D'accord.
Avec différents véhicules automobiles, s'il y en avait, ou des carrioles avec des chevaux.
Tout à fait. Alors justement, comment les blessés sont-ils affectés dans les différents hôpitaux ? Est-ce que c'est à partir de la gare ou est-ce qu'il y a un hôpital central ? Comment ça se passe ?
Alors, ils sont affectés sur Bourges, on va prendre l'exemple de Bourges, à partir de la zone des armées.
Ah d'accord.
Donc, on est dans la zone des armées. Donc, schématiquement, c'est le médecin-chef de l'hôpital d'évacuation qui va envoyer le nombre de blessés à évacuer à la commission régulatrice. Donc, on avait une commission avec différents personnels qui savaient le nombre de blessés à évacuer et où est-ce qu'il fallait les évacuer. Donc, nous, c'était à 3 parce que notre garde de répartition était à 3. Donc, la commission régulatrice, ensuite, va contacter le directeur du service de santé, directeur régional, qui va, lui, en fonction du nombre de places qui restent dans les hôpitaux, va pouvoir dire « on va affecter X blessés à Bourges, en tel hôpital, etc. » Et ensuite, on va préparer les trains sanitaires et on va charger les blessés dans les trains sanitaires pour les affecter. Donc nous, à partir de 3, on sait qu'ils vont être évacués sur Bourges.
Très bien.
Sinon, Saint-Dizier, la gare de Saint-Dizier, elle sert pour évacuer vers Dijon. Donc à partir de Bourges, les soldats arrivent à la gare de Bourges, on va les décharger pour les envoyer dans les hôpitaux de Bourges, sinon on les remet dans un train pour aller à Vierzon, Néron, La Guerche, etc.
C'est-à-dire qu'ils ont déjà une affectation de leur hôpital lorsqu'ils arrivent dans le département ?
Lorsqu'ils arrivent dans le département. Au mois d'août 14, ça ne se passait pas comme ça, vu le désastre sanitaire que c'était. Mais après, tout s'est réorganisé et on savait, d'ailleurs le blessé avait une étiquette sur lui.
Oui.
Et il avait son dossier médical sur lui, et on savait qu'il était affecté à tel hôpital. Et la liste des blessés était envoyée à l'hôpital pour dire, voilà, vous avez le soldat X qui doit venir chez vous.
En fait, une organisation sérieuse.
Une organisation sérieuse.
Alors justement, les hôpitaux de Bourges ou du département, est-ce qu'ils ont des spécialités ? Alors spécialités, je m'entends, chirurgie, maladie, tous les services que nous pouvons connaître maintenant.
Oui, Bourges était vraiment une ville très spécialisée au niveau médical. D'ailleurs, c'est ce qui avait posé problème pour l'évacuation dans les premiers temps, puisque des blessés de petite chirurgie arrivaient à Bourges, mais ce n'était pas le cadre des soins. Nous, on avait vraiment des services très spécialisés, entre autres au lycée, qui est le musée Estève actuellement, on avait un centre de prothèses maxillofaciales jusqu'en 1916. On avait aussi de l'urologie pour certains soldats. Donc là, on était boulevard Juranville. On a aussi un centre pour traiter toutes les maladies contagieuses. On a eu la neurologie, l'hôpital Jecteur. C'était le centre de neurologie de la 8e région.
D'accord.
Et on avait aussi au Sacré-Cœur, où il y avait le Sacré-Cœur, l'hôpital complémentaire 100, traiter de l'ophtalmologie, de la dermatologie, de la radiographie aussi. Hein. Et on a certains hôpitaux, mais on s'en va le voir, qui accueillaient certains civils. Aussi.
D'accord. Alors, justement, à partir de vos travaux de recherche, qui ne sont qu'au début. Pouvez-vous me parler de leurs blessures? Alors j'ai cru comprendre que leurs blessures, il y avait des blessures physiques, mais j'ai aussi parlé de blessures psychiques. Mmh. Est-ce qu'il y a des blessés, disons, profondément touchés dans leur psychisme, traumatisés?
Oui. 1916, on voit à l'hôpital complémentaire 28, donc au lycée Jacques-Cœur, une forte hausse d'admission liée à des névroses et des psychonévroses liées aux batailles et à la dureté des combats et puis à ce qu'ils ont vécu. C'est traumatisant. Donc on a des personnes qui sont arrivées en 1916, qui ont été soignées, d'autres qui ont été réformées suite à ça, puisque de très très grosses dépressions. Hein, on a des exemples de délires de persécution. Hein, et les personnes croyaient que la bataille était perdue à cause d'eux. Hein, donc vraiment, ils prenaient les choses à cœur. Il y en a qui ont sombré dans l'alcoolisme aussi. Donc ils ont été réformés. Certains ont été placés à l'hôpital psychiatrique de Beauregard aussi.
Vraiment traumatisés.
Vraiment traumatisés. Après, je ne sais pas les suites de leur vie à ces personnes, puisqu'il faudra trouver des registres et trouver des dossiers médicaux.
Oui.
Mais ça, c'était une petite partie, on va dire, des blessés qui arrivaient à Bourges. La plupart des blessés, c'était les blessures par éclat d'obus. D'accord. Et les balles de shrapnel. Donc, fracture du crâne.
Oui.
Ils n'avaient pas de casque au début de la guerre. Hein, c'est sûr, hein, ils y allaient avec leur casquette. Hein, donc, c'est sûr que les éclats d'obus étaient fréquemment logés dans les crânes. On avait les fractures des membres supérieurs et inférieurs, des plaies à l'abdomen très très importantes, hein, des plaies thoraciques, mais aussi toutes les infections liées aux blessures en elles-mêmes, puisqu'on n'avait pas de moyens pour les soigner, les désinfecter, ne serait-ce sur la ligne de front. Et aussi, on a des soldats qui mouraient de septicémie, même sur Bourges.
Même sur Bourges.
Même sur Bourges. Alors on a aussi la gangrène gazeuse, hein, qui était très importante à cause des bactéries qui s'infiltraient dans les articulations et qu'il fallait amputer ces messieurs.
Est-ce qu'on a un pourcentage un peu des morts suite à leurs blessures dans les hôpitaux? Non.
Non, pour l'instant, je ne peux pas vous dire, parce qu'il faudrait faire tous les registres qui sont à Limoges. Et là, on a les causes des décès. Mais vraiment, pour l'instant, oui, ces blessures sont très importantes. On a réussi à les soigner, à les sauver, puisque la science a évolué.
Oui.
Et aussi, pour certaines infections, pareil, la science avait évolué. Et on a mieux pris en charge les blessés sur la ligne de front aussi.
D'accord. Donc il y a une évolution quand même positive.
Et oui, à partir de 1915, avec le système mis en place par Justin Godart, là, on a pu prendre mieux en charge les blessés et créant d'autres structures sanitaires au front.
Oui. Alors Justin Godart, vous me parlez beaucoup. Qui est ce monsieur?
Justin Godart, il était député au début de la guerre, député de Lyon, et qui a été mobilisé, mais on lui a dit que non. Il n'était pas intéressant, ce monsieur, puisque c'était un politique. Il a gardé un pont pendant quelques mois et il s'est engagé lui-même à aller au front. Il était ambulancier au départ. Et il a vu le désastre sanitaire. Et c'est lui qui en a parlé en tant que député à l'Assemblée nationale. Oui. Et c'est lui qui a fait bouger vraiment les lignes pour qu'on puisse vraiment prendre en charge ces soldats.
Ah, oui.
Et c'est lui qui a dirigé le service de santé aux armées pendant plusieurs années, et c'est lui qui a créé tout le maillage hospitalier, et on peut dire que c'est lui qui a créé la politique de santé publique qu'on pourrait connaître actuellement.
Très bien, très bien. Alors, ces hôpitaux à Bourges ou dans notre département, est-ce qu'ils soignent uniquement des militaires? Est-ce qu'ils soignent aussi des civils?
Alors, ils soignent bien sûr les militaires, mais pas que, puisque Bourges était une ville où il y avait des garnisons, mais aussi tous les établissements d'armement.
Oui.
Donc, on a laissé des lits dans les hôpitaux complémentaires pour les ouvriers et les ouvrières. Donc je peux vous citer.
Ah,
hein.
Oui.
Donc le lycée où il y a le musée Estève. Donc là, c'était tous les ouvriers d'usine et les travailleurs coloniaux qui ont été admis à partir de 1916. Groupe scolaire d'Oron, donc boulevard Juranville, là, on a créé un service de gynécologie, de petite chirurgie et une maternité de 40 berceaux pour les munitionnettes.
D'accord.
Dans le couvent des Sœurs de la Charité... Là, on prenait en charge les enfants malades des crèches militaires, ceux qui avaient des infections contagieuses, donc des maladies infantiles. On les isolait. Mmh. Au niveau de l'école de la Courchartier, donc là, c'était les ouvrières de l'école centrale de pyrotechnie qui étaient admises, ainsi que les infirmières des hôpitaux du Cher et de la Nièvre. Donc là, j'ai relevé, il y avait 195 femmes qui ont été hospitalisées dans cet hôpital.
Oui.
Et à Jacques-Cœur, on a aussi accueilli les ouvriers des établissements militaires qui avaient des pathologies psychiques.
D'accord.
Ils ne sont jamais allés au front, ces personnes, mais il fallait les prendre psychiquement, puisque Certaines d'entre elles sont allées à Beauregard après.
Alors, justement, devant cette population très importante de malades, est-ce que nous avons des témoignages d'habitants de Bourges ou du département sur cette période importante concernant nos blessés?
Alors, témoignages d'habitants, non, j'en ai pas. On a quelques témoignages aux archives départementales sur deux infirmières. Mais c'est vraiment... j'ai aucun témoignage pour l'instant sur la vie quotidienne et la vie dans Bourges à l'époque.
Très bien. Alors, tous ces bâtiments mobilisés dont vous avez fait allusion, transformés en hôpitaux militaires, comment sont-ils rendus à la vie civile?
Alors, ils sont rendus à la vie civile par le ministère de la Guerre. C'est lui qui va prendre la décision en fonction des besoins.
D'accord.
Tous les besoins. Est-ce qu'on a encore besoin d'avoir autant d'hôpitaux? Puisque au fur et à mesure de la guerre, elle s'achève. Donc, on a besoin de moins d'hôpitaux puisqu'il y a moins de blessés aussi. Puisqu'on les prend en charge mieux. Donc, on va fermer aussi, donc on va rationaliser les soins. Donc, on va fermer les tout petits établissements pour orienter vers de grands centres. C'est la politique actuelle de notre ministre de la Santé.
Actuellement, oui.
Et alors, pour le ministère de la Guerre va octroyer un dédommagement financier à chaque établissement pour remettre en état l'établissement et pour qu'il puisse refonctionner à nouveau. Alors, un exemple, au lycée Jacques-Cœur, on a transféré l'hôpital en 1916 à l'institution Sainte-Marie. Et on a créé des logements pour les ouvriers dans cet établissement et une crèche en attendant que celle de la pyrotechnie ouvre. Et on a attribué un budget pour qu'il puisse fonctionner, cet établissement. Et à la fin de la guerre, en fonction de la taille de l'établissement, il y a une allocation qui est donnée.
Très bien. Alors, ultime question. Subsiste-t-il un hôpital militaire à Bourges à l'issue de ce premier conflit mondial?
Eh bien, il nous reste l'hôpital militaire, qu'on appelle Baudens, qui est, lui, un des grands hôpitaux de la 8e région. Mais tous les hôpitaux complémentaires auxiliaires ont été fermés jusqu'en 1919. Donc, une fois que l'armistice a été signé, on les a fermés au fur et à mesure.
Très bien. Merci, madame, pour ces explications de grande qualité, qui ouvrent aussi un vaste champ d'investigation sur ce quotidien de la souffrance de nos blessés pendant ce premier conflit mondial, avec une vision locale, celle de notre département. Merci à vous, auditeurs, auditrices, pour votre fidélité à cette histoire militaire du Cher et du Berry avec Agora Défense. Bonne journée et bonne semaine à vous à l'écoute de RCF.